Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure pour l'animation musicale. C'est l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons l'ANACRE des Landes. Alors, c'est l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance. Alors, on a du monde dans le studio aujourd'hui. On a Michel Labéry, Henri Duroux et Michel Labéry.
Oui.
Bonjour tous les trois, comment allez-vous ?
Bonjour.
Ça va très bien.
Ça va
bien.
Très bien.
Merci. Ouais. Alors, bon, on va parler de résistance, vous avez compris, parce qu'il y a de l'histoire, mais il y a aussi de l'actualité, parce que ça se fait tous les jours, ça, la mémoire, hein, il faut se battre pour ça. On va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre association et ses actions. On va d'abord écouter le flash info national et international. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Et nous voilà de retour. Hein. Bon voilà, on a écouté les informations nationales et internationales en ce moment. Évidemment, manque de chance, on voit bien que l'histoire se répète, n'est-ce pas,
hein? Oui.
On parlait de devoir de mémoire et de transmission, mais oui. Manque de chance, hein. C'est pas gagné cette histoire.
Non.
Alors la tradition ici, c'est on demande un petit peu à nos invités avant de démarrer l'émission elle-même de faire une petite trajectoire personnelle, raconter un petit peu leur vie, ce qu'ils veulent en dire en tout cas, pour avoir un peu une idée de qui ils sont, de ce qu'ils ont connu, leur trajectoire. Si vous voulez bien vous prêter à cet exercice, qui est-ce qui se lance en premier ? Ah, c'est Michel.
C'est Michel.
Michel. Oui.
Michel. Oui.
Oui, nous vous écoutons.
Je suis fille de déportée, Laouze Émile, et maman était internée à Bordeaux. Mmh. Voilà, arrêtés tous les deux le même jour. Mon frère, âgé de 8 ans et demi, assistait à cette arrestation qui ne fut pas belle. Il a vu battre ma mère. Bon, enfin, c'est comme ça.
Oui.
Voilà. Donc, papa, il faisait de la résistance. Mmh. Il savait tous les deux ce que serait leur destin, mais ils ne connaissaient pas l'historique des camps de concentration. Mmh, mmh. Donc voilà, ils n'en connaissaient pas, mais ils l'ont fait de... Et si c'était à refaire, me disait mon père, je le referais.
Ben, c'est bien, c'est...
Ils étaient résistants et engagés.
Oui.
Engagés politiquement, ils étaient communistes tous les deux.
Oui, évidemment, c'est vrai que c'est toujours un peu voisin, hein. On en parlera de la résistance.
De l'engagement.
L'engagement et le communisme fait partie de l'histoire. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Et vous-même, vous aviez quel âge à cette époque-là ?
Je suis née, maman est revenue avant, parce qu'elle était malade. Mm-hmm. Papa est revenu en septembre 1944, et je suis née en mai 1946.
D'accord. Très bien. Et entre-temps, vous avez fait quoi depuis ? Vous avez
qu'est-ce
comme profession ?
Que
oui, qu'est-ce que vous avez
comme
fait ?
Comme profession.
Oui, si vous voulez nous le dire. Hein.
Oui, bien sûr, absolument. Oui. J'ai poursuivi mes études au collège de Dax, de Saint-Paul-et-Dax. Non, il n'existait pas. Au collège de Dax, et j'ai poursuivi des études en sténo et comptabilité.
D'accord. Très bien. Merci de ce que vous avez raconté. C'est intéressant. Déjà, on a un pied déjà dans l'histoire qui nous rejoint aujourd'hui. Qui est-ce qui... Henri, peut-être, quelques mots ?
Mais alors, moi, je suis né à Saint-Paul. Ça fait maintenant 85 ans.
Oui.
Je suis allé au collège à Dax. On appelait ça la SUP. Mm-hmm. J'en suis sorti à 16 ans et demi. J'ai travaillé un petit peu à la SEM, qui venait de s'installer à Dax, à Saint-Paul. Mmh. Puis après, j'ai passé mon concours de PTT. Je suis parti au PTT. Et en août 1960, je suis parti pour l'Algérie, où j'ai passé 27 mois. Mmh. Et comme je vous l'ai dit, je fais partie de ceux qui sont allés aux essais nucléaires à Honecker.
Oui, c'est vrai,
Après, je suis revenu, et là, en novembre 62, pour ma part, je me suis syndiqué à la CGT, et je suis rentré à la Fédération Nationale des PTT, CGT.
D'accord.
J'ai travaillé en tant que technicien jusqu'à 31 ans, et à 31 ans, je suis devenu permanent syndical, national, à la fédération CGT des PTT. Mmh. Et là, j'ai fait mon travail de technicien, bon, d'un responsable national. Mmh. Et en 99, j'ai pris la retraite. Je suis revenu ici, à Saint-Paul. Et là, au bout de 2 ans, je me suis engagé comme conseiller municipal. Mmh. Avait l'étiquette du Parti communiste.
D'accord.
Et c'est Michel qui m'a fait venir. Et puis, j'ai fait donc 13 ans de conseiller municipal et 10 ans de communauté.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Mais maintenant, je m'occupe de l'association, je continue, notamment l'AVNACA pour les anciens. Ouais. Voilà.
Comment vous en êtes venu à la résistance, à vous investir dans cette association? Voilà.
Alors, la résistance, bon, j'ai toujours été passionné de ça, hein. De la résistance, évidemment. Mon père a fait la guerre de 14. Mmh. Hein, bon, voilà. En tant que permanent syndical, on était aussi porté, engagé par le Parti communiste. On était toujours porté sur l'effet de résistance. Bon. Mmh. Alors, après, oui. J'ai rejoint l'ANACR, mais quand je suis revenu à la retraite, et c'est avec Michel en même temps, en même temps que j'étais candidat au municipal, j'ai adhéré à l'ANACR. Oui. Et je suis devenu le trésorier de l'ANACR.
D'accord, très bien. Alors je précise aux auditeurs, hein, parce qu'on a deux Michel dans le studio, et ils ont le même prénom et le même nom de famille, parce qu'ils sont mariés depuis 60 ans. Hein, donc il y a Michel et Michel, voilà, bon, ben c'est bien. Là aussi, il faut de la résistance, on a parlé en tel, mais bon, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Alors Michel tout court, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, s'il vous plaît?
Alors moi, je suis né à Saint-Paul-et-Dax aussi, il y a 88 ans maintenant. J'ai fait toutes mes études d'abord à l'école de la Perse, puis au lycée Borda. Et je suis parti enseignant en Gironde d'abord, puis finalement je suis revenu dans mes Landes. J'ai exercé toute ma carrière, toute la fin de ma carrière, entre la Luc et Saint-Paul-et-Dax pour terminer. Et en même temps, comme j'étais engagé aussi dans le Parti communiste, je suis rentré au conseil municipal de Saint-Paul-et-Dax, à l'époque d'Henri Lavielle, et j'y suis resté pendant 31 ans. Donc, 17 ans d'adjoint.
D'accord. Alors, vous êtes enseignant en quelle discipline?
J'étais enseignant dans le primaire, j'étais instituteur, comme on dit.
D'accord.
Parce que je n'aime pas beaucoup professeur des écoles.
Oui, oui, c'est un nouveau terme.
Instituteur.
Oui, oui. C'est un terme plus ancien, mais voilà, c'était pas le même travail tout à fait non plus, voilà. Peut-être. Très bien, ben merci beaucoup. Hein. On a planté le décor, hein. On voit que vous êtes des locaux aussi. Hein. Ça tombe bien parce que le sujet, c'est aussi la nacre des Landes. Hein. Donc, parlons de la nacre. Alors, avant de parler effectivement de la spécificité du comité landais, c'est une association à l'échelle nationale au départ, qui compte, je crois, à peu près, qui doit rassembler entre 9 000 femmes et hommes. Qu'est-ce donc que la nacre?
Alors, la nacre, c'est l'Association nationale des anciens combattants dans la résistance, ce qu'on appelait en clair les soldats sans uniforme.
Oui.
Parce que il faut comprendre que dans la résistance, il y a une grosse différence entre ceux qui étaient militaires, qui étaient couverts par les lois de la guerre. Mmh. Lorsqu'ils étaient pris, ben, ils étaient emprisonnés et jugés, avec ceux qui étaient dans la résistance,
oui.
Qui n'étaient pas donc engagés militaires, qui n'avaient pas de solde, bien sûr, mais qui, lorsqu'ils étaient pris, étaient des terroristes.
Voilà, c'est ça.
Et donc jugés comme tels et fusillés.
Oui.
Voilà. Ou déportés, ou... Voilà.
C'est vrai, oui, c'était pas le même statut.
C'était pas du tout le même statut.
Alors c'est vrai que vous avez prononcé le mot terroriste, c'est vrai qu'il y a cette ambivalence, des fois, entre résistants et terroristes, c'est des questions qui sont posées, notamment avec des Yasser Arafat ou des personnalités politiques comme ça, qui sont passées de... On va dire, ils sont passés en odeur de sainteté avant d'être diabolisés. Hein, cette frontière n'est pas forcément évidente, hein, un peu délicate.
Alors... Il faut dire que dans la résistance, lorsqu'elle a commencé, la résistance, c'est en 40, dès le 18 juin, avec l'appel du général de Gaulle qui n'a pas été entendu par grand monde. Mais il y avait, disons, les bases du Parti communiste déjà qui ont commencé à résister, même si certains le récusent parce qu'en parlant de l'accord germano-soviétique. Mais... dès le début, les communistes français se sont réorganisés parce qu'ils avaient été exclus. et ils se sont réorganisés pour résister.
Oui.
Et il y avait un autre groupe qui résistait, c'était, disons, les patriotiques, les patriotes. Et en particulier ici, sur Dax et sur Saint-Paul, on a deux groupes de résistance importants. Il y a eu le groupe communiste qui était surtout cantonné sur Saint-Paul et Dax, parce que c'était les gens qui travaillaient ou à la SNCF ou au PTT, qui étaient organisés donc déjà. Et sur Dax, il y avait un groupe qui était davantage orienté par la droite et la résistance patriotique, c'était les patriotes comme Camille Bouvet, qui a été une des figures de la résistance,
les
premières.
Oui. Ça, on va passer un petit peu de temps sur Camille Bouvet, je crois que c'est inévitable quand on est ici. Hein. On va d'abord faire une petite pause, écouter un petit peu de musique. Vous allez entendre une musique qui va vous dire quelque chose, je pense. On se retrouve tout de suite après ça. Nous voilà de retour. Bon, bah, c'était le chant des partisans. Voilà. C'est un petit peu d'émotion dans le studio. Bon, on va parler du futur aussi, on va pas parler que du passé, on va parler des jeunes, on va parler de l'espoir aussi. La nacre des Landes, parlons-en de vous, donc combien êtes-vous d'adhérents, quelles sont vos actions, on va parler de ça.
Alors, on a envoyé des cartes en début d'année, et l'an dernier on a fini avec 174 cartes.
Ah oui.
Et sur ces 174 cartes, il y a deux comités locaux, celui du Grand Dax, le nôtre, et celui de Tarnos.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Et puis tout le reste, c'est éparpillé. On a même quelques adhérents qui ne sont pas des Landes, qui sont de la Gironde.
D'accord, Landes-Gironde, ça a été très frontalier, dans les événements et tout ça, c'est très voisin. Et donc, vous éditez aussi une revue, donc j'ai eu un exemplaire, avec une belle photo, j'allais dire la star Jean Moulin.
Oui, c'était là.
Voilà.
Mais on édite une revue que depuis déjà plusieurs années, même plus de 20 ans, puisqu'on a sorti 70 numéros. Quelquefois ça se recoupe un peu, quelques-uns. On essaie d'y mettre bien sûr le résumé de la guerre, on essaie de rappeler tous les événements, et on essaie de mettre en valeur tout ce qui est l'histoire locale, c'est-à-dire les efforts, les épreuves les combats qui ont été menés par les Landais.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc, on retrouve dans nos revues beaucoup de souvenirs des Landais. En particulier de Camille Bouvet, de l'abbé Borde, de Grégoire à Saint-Paul-et-Dax, de Bergeron qui était à Peyrorade, ou surtout de Tarnos, puisqu'il y avait un très grand centre à Tarnos, étant donné qu'ils étaient à la fois près de la frontière espagnole, où il y avait donc les résistants espagnols qui étaient venus se réfugier là, et en plus il y avait les forges de la Dour qui avaient un fort potentiel communiste, et donc ils ont été les premiers à résister.
Voilà, et on parle encore des communistes, c'est vrai que, alors il y a eu ils étaient un peu en bisbille avec les socialistes à l'époque, ils avaient parti un petit peu de la chasse aux sorcières, les socialistes, mais c'est vrai que les communistes sont les premiers à avoir réagi, en fait, il y a eu des grandes grèves minières.
Les premières grèves ont été dans le nord.
Les mineurs.
Et il y a eu beaucoup de ces grévistes mineurs qui, leur résistance, c'est d'avoir simplement fait grève. Et ils ont fini dans les camps de concentration, où il y en a près de 80% qui sont morts.
C'est ça.
Tout simplement parce qu'on a refusé de travailler.
C'est ça. Premier acte de résistance, c'est la désobéissance, en fait.
Voilà.
Et oui.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une manière de résister. Oui, donc vous avez parlé il y a des mémorials aussi. Ça, c'est important. Ça, vous les faites vivre et vous en faites créer d'autres aussi parfois. Comment ça se passe?
On essaie de faire vivre et de rendre hommage à tous ceux qui ont été victimes de ces combats. En particulier au pont de Batz à Mont-de-Marsan, lorsqu'il y a eu la libération.
Oui.
Et également, on essaie de remettre à l'honneur tous ceux qui se sont battus ou qui ont été victimes de cette guerre. Et donc, nous, personnellement, sur la région des Landes, Nous avons d'abord établi plusieurs stèles, dont en particulier à Tarnance, mm-hmm. une stèle pour les déportés. Je vous parlais de la stèle du pont de Vatz à Mont-de-Marsan, mais il y en a aussi à Aire-sur-Adour, il y a eu aussi de grands combats. Et puis, nous avons depuis une quinzaine d'années créé un mémorial, parce qu'on n'avait pas de monument sur la guerre de 39-45 pour la résistance. Oui. Et nous avons donc créé un mémorial à Tétieux. Nous avons trouvé à l'époque l'accord du maire de Tétieux qui était très favorable à notre histoire. On avait sur Tétieux une stèle qui existait dans la forêt, parce qu'il y avait eu un maquis à Tétieux, et il y avait eu quatre résistants qui ont été tués sur place. Et dont les corps ont été promenés derrière les jeeps des Allemands à travers les rues de Saint-Paul-et-Val. Ah oui,
d'accord, comme les cow-boys. Quoi.
Voilà.
Ouais, je vois.
Ceux qui étaient au Bois de Boulogne, ils ont été amenés au Bois de Boulogne, voilà. Avec un canne en allemand. Oui. Et là, il y en a eu encore quatre autres qui ont été fusillés.
C'est vrai qu'il y a une stèle là. Voilà. Alors, c'est l'intérêt de ces stèles aussi, je parle vraiment d'un point de vue extérieur, c'est quand on se promène, entre guillemets, on n'a pas forcément conscience de ce qui s'est passé à l'endroit et tout, et puis tout à coup, on tombe sur une stèle, et on se replonge dans l'histoire, on dit « Ah ouais, il s'est passé tel drame ici, etc. » Et il y a le nom des gens quand c'est possible, et la mémoire revient. C'est ça une manière de faire vivre le souvenir.
Bien sûr. On a les deux dernières stèles qu'on vient de monter sur place, c'est à Saint-Paul, à la gloire de Grégoire. Grégoire, c'est un des premiers résistants, un des seuls qui a évité d'être déporté en 42, qui était un résistant communiste, et qui est revenu en 44 au moment de la libération, après le débarquement de Normandie, et qui pour empêcher les Allemands de pouvoir remonter trop vite au front, il a fait sauter le poste d'essence qui se trouvait à Saint-Paul, où 400 000 litres d'essence sont partis en fumée, ce qui a quand même bloqué une partie des troupes allemandes qui ont mis plus longtemps pour monter sur le front de Normandie. D'ailleurs, il a été même félicité par Eisenhower à l'époque. On a fait donc une stèle à Saint-Paul, à son honneur, avec son portrait. Et dernièrement, on vient de faire à Saint-Paul aussi une deuxième stèle, qu'on a inaugurée l'an dernier, sur les 17 résistants, enfin 21 également, qu'il y en avait en réalité, 21 déportés qui ont été pris, eux, en 42. Alors qu'à cette époque-là, la résistance, bien sûr, ce n'était pas la résistance armée, mais c'était chercher des renseignements, les faire parvenir pour prévenir les troupes étrangères, les Anglais.
Oui, c'est important.
Faire passer à la frontière aux étrangers aux juifs. Ou aux parachutistes qui tombaient sur le sol français, oui, qui leur faisaient partir vers l'Espagne. Et donc voilà, c'était surtout ça la résistance.
Oui, une partie espionnage, quoi, on va dire, entre guillemets.
Plus de renseignements de la résistance. Ouais. Et bien sûr, il fallait les abriter, les cacher, les nourrir.
Oui, bien sûr. On va déjà faire une deuxième pause. On va écouter le flash info local, un petit peu de musique. On se retrouve ensuite pour cette conversation. À tout de suite. Nous voilà de retour entre nos invités dans la nacre des Landes. Donc on parle de résistance. Alors on a parlé pas mal de passé. On va parler aussi de présent et d'avenir, puisque dans vos activités, il y a une chose importante. Alors ça porte un nom. En général, on appelle ça la classe défense. En tout cas, c'est une intervention auprès des scolaires dans les établissements pour justement faire vivre cette mémoire. Parlez-nous un petit peu de ces actions, s'il vous plaît.
Oui, bien, en effet, pour faire vivre la mémoire et plutôt pour la faire transmettre aux enfants, nous essayons d'aller le plus souvent possible dans les collèges ou dans les lycées ou dans les écoles primaires, à la demande, bien sûr, des enseignants. Le problème, c'est de trouver un professeur, un enseignant intéressé qui veut bien nous convoquer. Actuellement, nous avons participé au lycée de Borda avec deux professeurs qui nous permettaient de participer au concours national de la résistance, et dont on intervenait auprès d'eux. On a également participé à Pouillon, où aussi on avait là aussi des rencontres avec les enfants. Et tout dernièrement, Je suis actuellement sur Saint-Paul-d'Ax, à la classe de défense de Saint-Paul-d'Ax, ouais. qui m'a demandé d'aller faire un témoignage sur justement cet engagement de la résistance.
En plus, l'établissement s'appelle Jean Moulin. Accessoirement.
Accessoirement, il s'appelle Jean Moulin et il se trouve dans la rue Jean Odos, qui est un déporté mort là-bas en déportation.
Après, c'est une opportunité pour l'enseignant qui parle aux élèves, des fois, l'origine du nom de votre établissement. Des fois, c'est des artistes, des hommes politiques, etc. Bon, ben là, c'est quelqu'un qui a été important dans l'histoire de la résistance et de la France.
Et de la France. Oui.
Alors, vous parliez de ce concours national de la résistance. En quoi cela consiste ?
Alors, ce concours national de la résistance, il est organisé donc par l'académie, par le rectorat, et il s'adresse à tous les lycées et collèges qui veulent bien participer. Malheureusement, ils ne sont pas plus très nombreux. Alors, il s'agit d'un thème tous les ans, soit sur les Juifs, soit sur la résistance, soit sur le Vercors, soit sur notre région, et les élèves peuvent soit faire une dissertation individuelle, participer individuellement, soit réaliser une pièce de théâtre ou un objet ou un film, enfin tout ce qui est possible de réaliser en collectivité.
D'accord.
Voilà. Avec, bien sûr, l'appui de leur professeur, de tout le collège, qui peut les aider.
D'accord. Et donc après, ensuite, on évalue la qualité de la production en disant, ben voilà, ça c'est représentatif, c'est de bonne qualité.
Voilà, c'est évalué à Mont-de-Marsan, pour ce qui est des Landes. Et quelques-uns des sujets qui ont été les mieux réalisés sont envoyés ensuite au rectorat, où là, se finalise le concours. D'accord. Et donc, il y a bien sûr des récompenses pour les meilleurs résultats. Mmh. Alors, les récompenses, c'est soit des voyages, des voyages, bien sûr, soit sur Orléans-Limbourg, soit sur les camps de concentration, comme le Struthof ou Sachsenhausen, soit, bien sûr, après, pour des livres ou une récompense personnelle.
D'accord. Oui, alors ici, qu'est-ce qu'il y a de plus proche comme endroit lié à la guerre, etc. Je sais qu'il y a le camp de Gurs dans les Pyrénées Atlantiques. C'est peut-être ça, je crois, le plus proche, ou il y a quelque chose dans les Landes. Est-ce qu'il y a un site particulier?
Alors ici, dans le camp de Gurs, se trouve pas tout à fait lié à la résistance. Non, c'était la résistance des Espagnols.
Oui, voilà.
Mais ici, nous avons bien sûr le mémorial de Tétieu, mais nous avons ici également à Aire-sur-Adour, où il y a eu Aire-sur-Adour et Grenade, où il y a eu des combats au moment de la libération, où il y a eu pas mal de morts d'ailleurs. Et ensuite, il y a également le site de Mont-de-Marsan au pont de Batz, où là aussi il y a eu des tués au moment du départ des Allemands.
Il y a Buglose aussi.
Alors,
la Buglose aussi.
Oui, Buglose.
Tétieux, je vais parler de Tétieux tout à l'heure.
Et alors, je pensais à Camille Bouvet, hein, parce que lui, il a été, je crois qu'il a été exécuté au Mont-Valérien.
Il a été exécuté.
Un lieu particulier aussi, le Mont-Valérien.
Alors, c'est un lieu particulier, oui, le Mont-Valérien, c'est un endroit où étaient enfermés, où étaient emprisonnés tous ceux qui étaient des résistants contre le régime, en particulier d'abord les sénateurs et les députés communistes de l'époque, et qui ont été fusillés, bien sûr. Ils ont servi d'otages et au moment des premiers soldats allemands qui ont été tués, pour un soldat ou un officier allemand tué, c'était dit...
Il y avait un quota.
Fusillé prisonnier, quoi. Et donc, Camille Bouvet a fait partie de ces premiers fusillés. Et il est le 30 novembre 1942.
Très bien. Oui, c'est vrai, Camille Bouvet, c'est une figure majeure de la résistance dans les Landes.
Oui.
Il a fait beaucoup d'allées-venues en vélo, je crois, entre ici et Pau, par là-bas. Hein.
Voilà, et c'était... Il était dans la commune, dans la ville de Dax, dans le milieu plutôt, bourgeois de la ville, et il a été un des seuls à refuser la défaite, quoi.
Oui.
Et à refuser à se plier au régime de Vichy.
Voilà. C'est vrai. Alors, il est venu une démarcation à traverser les Landes. Elle passait à Jetmo, je crois. Et donc, oui, la France a été coupée en deux, mais pendant un certain temps, ça s'est arrêté, je ne sais pas.
Alors, en 42, oui, ouais. De 40 à 42, la France était partagée en plusieurs morceaux. Il y avait, bien sûr, d'abord la zone qui était la zone auprès de l'océan, la plage,
ouais.
Où il y avait le mur de l'Atlantique qui était interdite. Mmh. Il y avait ensuite la zone occupée, qui était la nôtre, mmh. Et il y avait après la zone libre qui était à partir de la ligne de démarcation.
Ouais.
Alors, ici, on n'était pas très loin de la ligne de démarcation, ce qui permettait... au départ de faire partir des gens qui voulaient qui se retrouvaient en France, dans la France libre, et qui pouvaient ensuite partir vers les pays étrangers pour se protéger. Et également, c'était l'occasion d'aller récupérer des provisions, parce que dans la France libre, on avait quand même encore la possibilité de vivre à peu près honnêtement.
Oui.
Et dans la France occupée, les Allemands nous privaient de tout.
Oui.
Et donc, allait chercher un peu de vin, un peu de nourriture de l'autre côté de la frontière, de la ligne de démarcation.
Oui.
C'était l'occasion de passer souvent la ligne.
Oui, c'est-à-dire que ça faisait des zones différentes aussi. Les Allemands avaient un petit peu de mal à occuper tout le territoire. Hein.
Mais
ils ont été un peu aidés par des gens de chez nous, n'est-ce pas ?
Oh que oui, on avait... malheureusement, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais on avait, au début, au moins, beaucoup de Français qui étaient des collaborateurs, c'est-à-dire qui étaient pour le régime de Pétain, régime de Vichy, et qui participaient à l'effort allemand, qui aidaient les Allemands. La résistance, c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, des terroristes, et on a subi beaucoup de dénonciations, d'ailleurs. Plus de 250 Landais sont partis dans les camps de concentration, dont particulièrement les 21 Saint-Paulois, parce qu'ils ont été dénoncés par un des leurs, d'ailleurs, qui faisait partie du groupe, qui s'appelait Giré, qu'on peut le nommer, et qui malheureusement a fini presque honoré à la fin parce qu'il avait réussi à jouer le double jeu et à rentrer également dans la résistance à la fin.
Oui, voilà,
c'est malheureusement ça aussi.
Les fameux résistants de la dernière minute, ils se sont décrétés résistants. Bon, voilà, c'est comme ça, voilà. Eh ben, on va déjà faire notre dernière pause. On va attaquer la dernière partie de notre émission. Hein. Encore un petit peu de musique et on conclura ensemble tout ça. Nous voilà de retour avec nos invités pour la dernière partie de cette émission. Vous voulez parler un petit peu aussi des actualités et des projets. Qu'est-ce que vous avez en prévision, des choses à venir ?
Alors, oui, nous avons actuellement... deux projets pour continuer ce travail de mémoire. D'abord, nous allons travailler avec la classe de défense de Saint-Paul-des-Dax pour aller les rencontrer et parler avec eux. Et également, ils interviendront le 27 mai sur la stèle de Saint-Paul-des-Dax où nous pourrons faire un petit film afin de rendre hommage à ces déportés de Saint-Paul. Ça, c'est le premier point que nous allons faire. Bien sûr, ce travail, nous le faisons parce que nous voulons essayer de montrer que ce qui est important de faire savoir, c'est que ces gens sont morts, non pas pour se battre, mais pour la paix. Mmh. Parce qu'ils se sont battus pour qu'il n'y ait jamais plus de guerre, pour qu'on vive en paix entre les pays. Et donc... ce que nous cherchons, c'est à faire en sorte, surtout dans la période actuelle, quand on voit ce qui se passe dans le Moyen-Orient, on a encore beaucoup de choses à faire pour travailler pour la paix. C'est un de nos principaux buts. Nous avons des expositions, plusieurs expositions sur les thèmes des femmes dans la résistance, sur la déportation des juifs, et nous essayons de faire en sorte de les commenter, de les expliquer et de les montrer le plus longtemps possible.
Oui.
Voilà. Et voilà, nous voudrions que on puisse également rencontrer d'autres écoles. Bien sûr, ça nous prend du temps, mais nous sommes contents lorsque d'autres établissements nous demandent de participer et de faire avancer ce problème de la paix. Et également rappeler l'importance qu'avait eu le CNR au moment de la, de la libération.
Bien sûr.
C'est, nous sommes encore, disons, bénéficiaires un petit peu moins, parce qu'on est en train de nous casser de plus en plus de toutes ces lois qui avaient été votées à l'époque. Mmh. Et nous voudrions qu'elles perdurent encore longtemps.
Oui, c'est vrai. Des fois, on reçoit des vieilles associations hollandaises qui ont été créées par le... à cette époque-là.
Hein, oui, tout à fait.
Ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai déjà eu des discussions avec...
Moi, je peux dire que je suis bénéficiaire de cette loi du CNR, de ces lois du CNR, puisque nous étions dans une, j'étais dans une famille de 10 enfants, et sur les 10 enfants, on a tous pu faire des études.
Voilà. La Ligue de l'enseignement, d'ailleurs, je crois, a été créée à cette époque-là aussi. Hein, ça fait partie des associations, parce qu'il y a des fois, il y a des associations vénérables dans les Landes. C'est,
tout à fait.
On peut le dire. Donc, ce devoir de mémoire, hein, alors devoir, on retrouve le mot devoir. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est une chose qu'on fait pas pour soi, mais parce qu'on sait qu'il faut le faire. Hein, voilà, comme les gens, vous parlez des gens qui ont sacrifié leur vie.
Oui.
Voilà, donc par devoir, parce que, voilà, pour leur pays, pour leurs concitoyens, leur famille, leurs voisins. Voilà. Et puis bon, c'est bien aussi que les gens sachent, mais des fois, on passe dans une rue, dans un endroit, il y a des noms sur des plaques.
Noms, voilà.
Mais derrière ces noms, il y a une histoire qu'on ne connaît pas forcément.
C'est pour ça que nous demandons, en particulier sur Saint-Paul, parce que c'est la voie de presse, et sur Saint-Paul, qu'à la suite du nom, soit noté le lieu où ils ont été déportés, pour ceux qui ont été déportés, et quels sont les combats.
Oui, à Saint-Paul, nous avons quatre noms de rue qui portent les noms de quatre déportés, ceux qui sont restés dans les camps.
Oui, bien sûr.
Qui sont morts là-bas.
Ouais, il faut
Jean Audros,
faut l'expliquer.
Bien sûr.
Jean Lagouin, René Loustalot, et Gilbert Laillade.
D'accord. Voilà. Eh bien, je vais arriver à la fin de cette émission. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ça avec nous, avec les auditeurs et avec moi. C'est toujours un peu émouvant quand on parle de ça, parce que bon, même vous avez des souvenirs en tête d'images et de gens.
C'est nous qui vous remercions de bien vouloir. Qu'on puisse occuper notre temps, mais qu'on puisse parler de cette histoire pour éviter de la revivre.
Bien sûr, c'est
surtout ça.
C'est un problème qui est d'autant plus prégnant en ce moment. Enfin voilà, le loup rôde toujours. Bon ben merci beaucoup
tous les trois de
venus. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Merci de l'avoir préparé comme ça. Merci.
Au revoir.